Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 8h15 sur Europe 1. L'invité politique ce matin est la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour Sébastien Krebs, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être mon invité ce matin. Le parquet de Paris a ouvert une enquête hier suite à un déferlement de haine antisémite qui a visé l'une des candidates au concours de Miss France samedi soir. Miss Provence, visée uniquement parce qu'elle l'a précisé à l'antenne que son père est israélien. Tiens, écoutez là, on ne l'avait pas encore entendu depuis.
C'est la première fois que je dois faire face à ce genre de propos. J'ai décidé de porter plainte. Il faut pas que ça s'arrête là et il faut que on puisse sensibiliser encore les gens à ce genre de choses.
Il ne faut pas que ça s'arrête là, dit April Benayoun, c'était sur BFM. Mais on a l'impression que c'est toujours la même histoire, Elisabeth Moreno.
Écoutez, c'est un moment de fête suivi par des millions de Français qui auraient dû n'apporter que de la joie et qui en fait a été gâché par ces relents d'antisémitisme qui n'ont pas leur place dans notre pays. La vague de propos antisémites dont April, notre magnifique Miss Provence, première dauphine d'Amandine Petit, est totalement abjecte et inacceptable et de manière générale, l'antisémitisme reste un fléau, vous avez raison, qui doit nous concerner tous parce qu'il touche simplement à la dignité humaine et nous devons absolument le combattre et rester vigilants en permanence. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Moi, je me réjouis que la justice ait ouvert une enquête pour retrouver et punir les auteurs de ces propos haineux.
Nouvel exemple de propos antisémites, nouvel exemple aussi de lynchage sur les réseaux sociaux où les messages restent encore en ligne pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'arrive pas à forcer ces réseaux à agir plus vite ?
Eh bien, je pense, vous avez raison de le mentionner, parce que finalement, les réseaux sociaux, d'abord, je voudrais dire que les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce qui se passe dans notre société. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est extrêmement important, April le disait tout à l'heure, il faut sensibiliser, il faut former, il faut informer, et il faut que les réseaux sociaux se sentent responsables de ce qui se passe sur leur plateforme. Moi, je suis complètement atterrée de voir combien c'est lent aujourd'hui, malgré les alertes qui peuvent leur être données. On l'a observé avec la vague de racisme anti-asiatique il y a quelques mois, mais également avec la mannequin Christelle Yambaïssa qui a été victime, elle aussi, de discours haineux sur les réseaux sociaux parce qu'elle est noire, suite à cette campagne de publicité qu'elle a faite pour Monoprix. Et ces discours de haine virtuelle engendrent fatalement des blessures réelles, parce que les réseaux sociaux ne sont pas un monde à part. Vous imaginez si vous étiez menacé de mort dans la rue en permanence et si vous receviez un tombereau de haine de personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas et qui déversent sur vous leur colère, leur peur, leurs ignorances ou encore leur frustration.
Il y a encore des moyens d'agir. On a vu la loi Avia a été censurée par le Conseil constitutionnel. Elle tentait d'imposer aux plateformes de retirer les commentaires haineux en 24 heures. Ce n'est pas passé. Il y a encore des moyens d'agir ?
Alors, bien sûr qu'il y a des moyens d'agir. Et le combat du gouvernement, mon combat pour lutter contre la haine en ligne, il repose en fait sur trois axes. D'abord, en soutenant et en enrichissant le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Dans son article 20, ce projet de loi propose au juge une meilleure poursuite des auteurs en lui permettant de faire usage de la procédure de comparution immédiate qui est prévue dans le code de procédure pénale. Je sais que c'est un cheval de bataille du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et je le soutiendrai ardemment sur ce sujet. Ensuite, en soutenant la proposition de directive européenne dite Digital Service Act portée par Thierry Breton, elle conforte là aussi la position française en permettant de lutter contre la prolifération des contenus illégaux en ligne. C'est un sujet que notre pays soutient au plus haut niveau, puisque le Premier ministre et le Président de la République se sont exprimés là-dessus. Mais dans l'attente de l'adoption de cette directive européenne, nous pouvons en France, comme vous l'avez dit, adopter des dispositions au niveau national pour lutter contre la haine en ligne. Et pour cela, nous pouvons reprendre certaines des dispositions de la proposition de loi de Laetitia Avia sur le retrait des contenus illicites. Et puis enfin, il y a un observatoire, qui est géré par le CSA, qui est chargé de l'observation des contenus haineux sur Internet. Il réunit la DILCRA et plusieurs associations. Et c'est au travers de toutes ces actions que nous comptons lutter contre cette haine en ligne. Et moi, je veux accuser les plateformes qui refusent de prendre leur responsabilité sur ce sujet lorsque ces choses-là arrivent. Je les accuse de se cacher derrière leurs petits doigts et d'être volontairement passifs face à la haine. Et je les accuse aussi de ne pas se saisir de ces sujets, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quelle société est-ce que nous voulons vivre, dans quelle société est-ce que nous voulons élever nos enfants. Et lorsqu'on est chef d'entreprise, moi j'ai été dirigeante d'entreprise, et je sais que lorsqu'on se saisit véritablement de ce sujet, on peut l'éradiquer. J'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui se sont saisis de la lutte contre les discriminations. Donc ces chefs d'entreprise prouvent que c'est possible, et j'attends de ces plateformes qu'elles prennent également leurs responsabilités.
On entend votre appel, Elisabeth Moreno. Je reviens d'un mot au concours de Miss France, puisqu'on en parlait. Que pense la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes de ce concours où des jeunes filles défilent en maillot de bain soumises au vote des téléspectateurs? Est-ce que cela a encore sa place en 2020 à la télévision française?
Écoutez, c'est une institution française. Je pense que vous avez vu combien de Français ont suivi ce programme cette année encore.
Non, mais la question n'est pas là.
La question n'est pas là.
La question n'est pas là. Dans le monde de 2020, est-ce que la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes considère que ce concours a encore sa place à la télévision?
Moi, je ne suis pas contre ce programme à partir du moment où il fait partie de notre culture et c'est quelque chose à quoi nous tenons. Les jeunes filles qui s'y présentent, vous savez, il y a des jeunes filles qui rêvent un jour de pouvoir se présenter à ce concours de Miss France. À partir du moment où elles le font sur la base de leur choix, de leur volonté, et que ce moment est un moment de fête et qu'il ne dégrade pas les jeunes femmes qui contribuent, je ne vois pas pourquoi je m'élèverais contre cela. Absolument.
Elisabeth Moreno, vous êtes aussi en charge au gouvernement de la diversité et de l'égalité des chances, et vous dites vouloir porter une jambe sociale, la jambe gauche, en gros, au sein du projet de loi séparatisme. Y a de la place encore pour cela dans ce contexte très sécuritaire qu'on connaît ?
Mais bien sûr qu'il y a de la place. Vous savez, il y a beaucoup d'actions dites de gauche qui ont été prises par ce gouvernement tout au long de ces années. Il se trouve que la triple crise sanitaire, économique et sociale que nous subissons aujourd'hui a tendance à les faire oublier. Il ne faut pas non plus négliger ces questions de sécurité, parce qu'il est extrêmement important de protéger les valeurs de notre République. Moi, j'ai envie de porter ces actions de gauche parce que le cœur de mon ministère aujourd'hui tient justement à la dignité humaine, il tient à la lutte contre les discriminations, il tient au fait que nous soyons capables de tendre la main à toutes les personnes qui peuvent parfois être stigmatisées, qui peuvent être oubliées,
Mais est-ce que c'est le sujet? On parle de lutter contre l'idéologie islamiste.
Mais Sébastien Krebs, est-ce que parce qu'il y a des idéologies islamistes qui menacent notre pays, nous devons laisser de côté les personnes qui sont vulnérables, les personnes qui souffrent et les personnes qui sont en difficulté? Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire les deux en même temps? Est-ce que nous ne sommes pas capables à la fois de protéger nos valeurs fondamentales et en même temps de nous occuper des personnes qui ont besoin de nous? Je ne vois pas en quoi ce serait incompatible.
Alors quelles mesures sociales resteront dans cette loi?
Eh bien, je pense, déjà, je tiens à préciser que les mesures sociales n'ont pas fondamentalement besoin d'être dans cette loi. Je soutiendrai évidemment, je sais qu'il y a plusieurs députés de La République En Marche aujourd'hui qui réfléchissent à introduire dans cette loi des mesures sociales. Mais il y a aussi d'autres manières de répondre à ces problématiques. Et vous l'avez vu, le président de la République en a parlé dans sa dernière interview de Brut. Moi, celle qui m'intéresse le plus, parce que ça fait plusieurs mois qu'au sein de notre ministère, nous travaillons sur des propositions justement pour donner un aspect social à ce sujet. Et il y a trois choses sur lesquelles nous allons travailler. La première, c'est la plateforme qui va accueillir la parole des personnes qui sont discriminées. Il y a aujourd'hui 25 causes de discrimination dans notre pays, mais il n'y a aucun guichet unique qui puisse recueillir la parole de toutes les personnes qui sont discriminées. Donc ça, c'est la première chose que nous allons faire.
C'est une plateforme qui va s'installer sur Internet, ce sera un numéro de téléphone?
Alors, ce sera une plateforme qui sera accessible par téléphone, qui sera accessible via les chats, qui sera accessible sur Internet pour permettre à toutes les personnes. C'est un peu sur le modèle d'arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet aujourd'hui aux femmes qui sont victimes de violences conjugales de pouvoir parler aux forces de l'ordre. Là, en l'occurrence, nous allons surtout travailler avec le défenseur des droits et nous allons travailler avec les associations. Les personnes qui appelleront cette plateforme ou qui qui enverront un email auront un accès aux personnes qui sont formées par les défenseurs des droits et qui pourront traiter ces requêtes, qui pourront faire de la médiation lorsque c'est nécessaire, les envoyer vers un conseil ou un avocat lorsque c'est nécessaire, ou encore les envoyer vers les bons canaux de médiation ou de justice dont ils ont besoin. Donc c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pratique qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui et qui va permettre de faire en sorte que les personnes qui sont discriminées, qui parfois ont le sentiment que c'est pas la peine de déposer plainte, que c'est pas la peine de se manifester parce que personne ne s'en occupera, eh bien aujourd'hui il y aura quelqu'un qui se saisira de ces questions-là et qui fera en sorte qu'ils soient entendus.
Emmanuel Macron avait cité sur la question des discriminations quelque chose qui est beaucoup dénoncé dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle les contrôles au faciès. Le président en a parlé. Il y a un problème avec les contrôles de police, selon vous, ils peuvent être facteurs de discrimination ?
Malheureusement, c'est une vérité. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes que j'entends, que je rencontre, que les associations nous remontent également. Beaucoup de jeunes qui disent que parce que ils sont noirs ou parce qu'ils sont maghrébins, ils se sentent plus contrôlés que la moyenne.
Ils pourront le dénoncer sur cette plateforme, par exemple ?
Eh bien, justement, c'est cette fameuse convention citoyenne que nous allons également mettre en place, parce que nous connaissons les discriminations dans notre pays, mais nous ne les connaissons peut-être pas toutes. Et l'idée de cette convention citoyenne que nous allons lancer, c'est permettre à tous les Français, que ce soit ceux qui sont discriminés, mais également ceux qui ne le sont pas, de pouvoir parler de ce sujet de la discrimination et de pouvoir nous apporter un autre regard et d'autres idées sur la manière dont nous pouvons nous en saisir, parce qu'encore une fois, la question des discriminations ne concerne pas que les personnes discriminées, elle concerne toutes les personnes de notre pays. Moi, ce qui est au cœur de mon ministère aujourd'hui, c'est le sujet de l'égalité, et je m'appuie toujours sur l'article 1 de notre Constitution de 58 qui dit que tous les êtres naissent libres et égaux en droit, et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tous nos citoyens aient accès aux mêmes droits et qu'ils soient traités de la même manière et qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone.
Merci.
C'est ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui.
Merci beaucoup Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, en charge de la diversité et de l'égalité des chances. Merci d'avoir été mon invité politique ce matin, 8h27.